Ça va. Vous tenez le choc? Les nouvelles sont pas toujours faciles, mais... Moi, je trouve que j'ai une sale tronche, j'ai les yeux creusés, et puis je suis fatiguée et que je dors mal. Je dois donc être soucieuse. Mais je crois que je me l'avoue pas bien. Ou je sais pas trop. En tout cas, aujourd'hui, je me suis fait la promesse de pas aller trop sur les réseaux sociaux. De laisser mon téléphone dans ma chambre, dans un tiroir, parce que sinon c'est trop tentant. Et lire les informations nécessaires que deux fois dans la journée, pas plus. On verra bien, peut-être que de ça va naître autre chose. Je vais peut-être louper le coup de téléphone qui va m'égayer la journée ou le petit message qui va bien. Je suis à peu près sûre de ne pas louper un message de travail parce que du travail, j'en ai plus. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un livre qu'on m'a offert à une première de spectacle. Mais avant de commencer, on se prépare un petit peu en musique.
Qui aille dans ma poche, un vrai petit mari.
Je le voudrais petit, mignon et bien gentil,
et qui ne grogne pas, surtout comme papa. Je veux dans ma maison agir à ma façon,
régner, gouverner à ma guise.
Sans faiblesse chez moi,
j'entends faire la loi.
Tant pis si cela le déprime. Je voudrais un mari docile et sans reproche, qui aille dans ma poche, un vrai petit mari.
Je le voudrais petit, mignon et bien gentil,
et qui ne grogne pas, surtout comme papa. Il devra s'occuper de promener bébé et de tous les soins du ménage. Levé de bon matin, il devra, c'est certain, mettre tout son cœur à l'ouvrage. Je voudrais un mari docile et sans reproche, qui aille dans ma poche, un vrai petit mari.
Je le voudrais petit, mignon et bien gentil,
et qui ne grogne pas, surtout comme papa.
Extrait de Pascal Buchner. Mon petit mari. Lorsque Léon et Solange entrèrent dans l'église, tout le monde fut frappé par la différence de taille. Bien qu'il portât des talonnettes, il se tint droit comme un i. De fait, il lui arrivait à peine au-dessus de l'épaule. Nul ne s'en offusqua, ni les dévotes qui chuchotaient à l'abri de leur missel, ni la famille de Solange. Ce contraste avait choqué au début. Il s'estompait maintenant devant les qualités du futur gendre. C'était largesse d'esprit qu'une femme tombe amoureuse d'un homme plus petit, alors que l'inverse prévalait jusque-là. On y voyait un bon présage. Enfin, la supériorité masculine était mise à mal. Un homme menu pouvait épouser une géante, une dame mûre convoitait un garçon plus jeune. Les préjugés de l'ancien temps s'évanouissaient. D'autant que le mari avait fière allure. Léon était un bel homme aux cheveux noirs rabattus en arrière à la mode romantique. Avec ses grands yeux bleu-gris et un visage allongé aux lèvres charnues, il faisait honneur à Solange, une splendide créature au corps plantureux qui affichait un teint de rousse éclatant. Son passage dans l'allée centrale au bras de son père avec son bustier imposant empli de lys et son large dos bronzé à demi-nu souleva des murmures d'étonnement. Même le prêtre en fut troublé et dut baisser les yeux afin de poursuivre son office. À vrai dire, Léon n'était pas si petit. 1m66, cela reste fort honorable. C'est Solange qui détonnait avec son 1m80. Cela faisait une belle disparité. Mais les époux avaient transformé cet écart en atout, presque en signe de distinction. Léon était fou de sa femme, la comblait de cadeaux, de soins, d'attention. Très pieuse, elle avait résisté pour qu'il ne cède pas plus tôt à leurs désirs réciproques. Avait exigé des fiançailles en bonne et due forme avant les noces. elle l'avait conservé à feu doux un an durant. Tout au bonheur d'être courtisée, elle ne lui accordait que de menues faveurs, trop intimes pour être immorales, assez prometteuses pour attiser sa flamme. Le jour du mariage, quand le prêtre eut posé les questions rituelles, rappelé aux époux leur devoir de fidélité, d'assistance mutuelle en cas de maladie et remis les anneaux, Léon se hissa sur la pointe des pieds pour déposer un baiser sur les lèvres de Solange. Celle-ci, incapable de se baisser de peur d'abîmer sa longue robe blanche et de perdre la couronne de fleurs qui saignait sur son front, dut le saisir à bras-le-corps pour le soulever jusqu'à sa bouche. Il semblait un poids-plume entre ses mains et volait littéralement à des centimètres au-dessus du sol. L'assemblée émue par ce geste de tendresse applaudit. Chapitre 1. Les vases communicants. Ils s'installèrent dans un quartier central de Paris, non loin de Bastille, face à un square. Ils prirent un appartement en terrasse au sixième étage pour jouir d'une vue dégagée. Les parents de Solange, des commerçants avisés, avaient acquis un peu de bien, avancèrent la compte pour l'achat. Le couple, à peine dans sa trentaine, s'endetta pour 20 ans auprès des banques avec un taux intéressant. Solange, fille unique, avait pu suivre des études jusqu'à devenir chirurgien-dentiste à 29 ans, spécialisée dans les traumatismes de la mâchoire. En attendant d'ouvrir son propre cabinet, elle travaillait chez un confrère et ses talents, son habileté à soigner sans souffrance, lui valait l'estime des patients.
Elle a les cheveux mayonnaise, moi j'ai un pull cacadois. Elle c'est Jeanne et moi c'est Blaise, ça se passe à Saint-Jean-du-Doigt. Faudrait que je monte sur une chaise, car elle est plus grande que moi. Faudrait que je monte sur une chaise, ça va mieux quand elle s'assoit. Je suis comme au pied de la falaise quand son grand corps se déploie. Je respire ses charentaises et c'est son nombril que je vois. Allez Jeanne, y'a pas de malaise, viens donc admirer chez moi mes estampes japonaises et piments. Chapeau chinois. Elle a 20 ans, j'en ai 13. Et c'est vrai que j'ai les pieds froids. Mais mon cœur est une braise. Et je ne suis pas maladroit. Pour danser la Saint-Jeanaise, qu'on danse à Saint-Jean-du-Doigt. Elle m'a fait une clé anglaise quand je l'ai cru prête à l'emploi. J'ai pris une douche écossaise, c'était chaud puis c'était froid. Une chaleur de genèse, puis le mercure à moins 33. Erreur, fallait pas que je biaise, fallait pas sortir du bois. Car la Jeanne, elle est pas niaise, même si elle n'a qu'un petit poids. Elle a les cheveux mayonnaise, moi j'ai un pull cacadois. Elle c'est Jeanne et moi c'est Blaise, ça se passe à Saint-Jean-du-Doigt. Fixé avec une punaise, épinglée à la paroi. Pour la regarder à l'aise, j'ai mis son portrait chez moi. Soit dit entre parenthèses, faut pas le crier sur les toits. C'est mon polochon que je baise, vous imaginez ma joie.
Léon, lui, orphelin depuis l'âge de 4 ans, avait vécu de bourses et d'aides publiques. Il avait connu Solange à la faculté, il s'était spécialisé en otorhino-laryngologie, où il excellait également. Le voisinage de leur discipline les rapprochait encore. Comment s'arrangeait-il de leurs gabarits respectifs? Comment ils s'y prenaient? Cela regardait qu'eux. ils n'en formaient point moins le couple le plus épanoui. Que Léon soit flanqué de cette Valkyrie flamboyante lui valait de nombreux suffrages féminins. Il n'y prêtait nulle attention. Solange, de par son lustre, balayait les rivales potentielles. Il ne les voyait pas, n'avait d'autre ambition que d'aimer sa légitime et de la féconder autant de fois qu'elle le souhaiterait. L'idée que cet avorton partage la couche d'une telle beauté révoltait les mâles de leur entourage. Ces persiflages laissaient les époux indifférents. Les statistiques soulignent que les femmes préfèrent les hommes grands et sûrs d'eux. Solange n'était pas de ces femmes. Son petit docteur la comblait tout à fait. Elle le menait bon train. Il devait faire 3 pas quand elle en faisait 2, ce qui constituait à la fin du jour plusieurs centaines de pas supplémentaires. Elle ne ralentissait jamais l'allure. Il avait pris l'habitude de courir près d'elle, légèrement essoufflé. En voyage, il trottinait derrière elle en portant les valises. Elle marchait devant, altière, sans se retourner. Dans certaines soirées, quand elle avait un peu trop bu, Solange prenait Léon sur ses genoux, l'appelait « mon lion, mon superbe étalon », l'agaçait de 1000 chatouilles auxquelles il s'abandonnait comme un gosse, les jambes repliées, se tortillant faussement gêné. Peut-être parce qu'il avait perdu ses parents très tôt. Léon rêvait d'une famille nombreuse et chérissait les enfants par-dessus tout. Il constituait sa passion, sa raison d'être. Les vagissements d'un nouveau-né, le chaud regard d'un marmouset le consolaient de toutes les avanies de l'existence. Si grande fut son assiduité de mari que 9 mois plus tard, jour pour jour après leur épousaille, Solange mit au monde un garçon, Baptiste. Un vigoureux gaillard de 4,5 kg, aux joues vermeilles, qui braillait comme un clairon de caserne. Ah ça, il tenait de sa mère pour la carrure et le volume. D'habitude, la grossesse rend les maris modestes, les place face à un mystère qui les dépasse. Là, ce fut l'inverse. Léon avait vécu avec sa femme les moindres péripéties de la couvade, sentant avec elle les coups de pied du fœtus, souffrant de contractions. Son estomac avait d'ailleurs, grâce à un talent particulier pour la dilatation, réussi à gonfler aux dimensions du ventre de son épouse. Il évoquait une outre ou une amphore. Pendant une semaine, Léon ne quitta pas le prodige des yeux. Ils l'installèrent dans une petite chambre tapissée de roses et de bleus, dans un berceau à baldaquin. Une cigogne en bois suspendue au bout d'un fil d'or balançait doucement les ailes au moindre souffle, au-dessus de la couche. D'épais rideaux de crétonne protégeaient le sommeil du nourrisson et favorisaient une douce pénombre pendant les siestes. Léon se sentait si fier qu'il se retenait pour ne pas arrêter les passants dans la rue et leur déclarer « Je suis père, vous vous rendez compte ?» Il avait appelé ses amis, même les plus loin, pour leur annoncer la nouvelle, et avait épinglé les photos du petit sur tous les murs de son bureau. Pour fêter la naissance, les parents firent l'acquisition d'une petite chatte tricolore, noire, grise, blanche, qu'ils baptisèrent Fanfreluche, espérant que leur fils trouverait bientôt en elle une compagnie de jeu. Léon, en père modeste, tenait à prendre sa part du travail domestique. Il se levait la nuit pour torcher le bébé, le purger, le changer, tandis que Solange, généreusement pourvue, donnait son sein toutes les 3 heures et autorisait son mari à recueillir les dernières gouttes dont le poupon rassasié ne voulait plus. Pour Léon, rien n'était plus suave que de cajoler son chérubin rose. Ni bave, ni popo, ni rototo ne le rebutaient. Tout était magique chez Baptiste. Ses hareux-hareux avaient la beauté d'un poème épique. Il attendait que Solange relève de couche pour la couvrir à nouveau. Une fois les détails d'usage respectés, il se jeta dans les bras et l'ensema généreusement. Où qu'ils aillent, quelle que soit l'heure, il ne s'endormait pas sans un robuste câlin. 1 mois et demi après la naissance de Baptiste, Léon, enfilant une veste de velours côtelé, celle qu'il portait quand ils allaient à la campagne, s'aperçut que les manches avaient rallongé et couvraient la moitié des doigts, tandis que les épaules tombaient plus que de coutume. « Ben ça alors, moi qui l'avais fait faire sur mesure, je vais la ramener chez le tailleur. » Il avait pris une autre veste dans la penderie. et connut la même désaventure. Celle-là aussi semblait avoir poussé pendant la nuit et l'extrémité de ses bras pendait comme des moignons. Il se prit à rire. Que se passe-t-il? Lui avait-on joué un tour? Tant pis. Il allait retrousser ses manches, passer un chandail au-dessus pour étoffer son thorax et les épaules. Mais quand il voulut enfiler ses chaussures, ses mocassins noirs, il réalisa qu'il flottait dedans et que ses orteils ne touchaient plus le bout. De rage, il rembourra ses chaussures avec du papier journal et sortit avec un sentiment étrange d'avoir endossé les habits d'un grand frère.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et garder le meilleur.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps.
Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu.
Merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Quoi qu'il eût décidé d'ignorer le problème, il ne pouvait plus se départir d'un certain trouble. Il y mettait des hypothèses plus folles les unes que les autres. Que Solange, pour lui faire une farce, avait remplacé ses vêtements par d'autres, semblables mais juste un peu plus grands. Pourquoi aurait-elle monté un tel canular? Jamais elle n'avait tiré avantage de sa supériorité physique. Elle l'avait élu entre tous au nom de l'adage « tout ce qui est petit est beau ». Reine de l'euphémisme, elle avait banni de son vocabulaire les mots de « nabo », de « rachot », de « gnome » et pria à ses invités de se plier à cette règle. Même l'expression « nom d'un petit bonhomme » n'était pas bien vue chez elle. Léon choisit de ne pas lui en parler. Il serait toujours temps. Mais deux jours plus tard, alors qu'il sortait chez des amis, un autre incident se produisit. Il se trouvait debout dans l'ascenseur, une grande glace teintée en occupait le fond, quand Solange s'exclama « Bah Léon, espèce d'étourdi, t'as oublié de mettre tes chaussures, mais quelle tête en l'air tu fais ?» Léon frissonna. Non seulement il n'avait pas oublié de se chausser, mais il avait surélevé ses talonnettes, leur adjoignant 5 cm de semelles de cuir. Mais regarde-toi dans le miroir, grande Adèle. Solange, je les porte, je t'assure. Il a baissé la tête gênée, lui montra ses pieds dûment enveloppés de bottines noires cirées et flanqués de semelles compensées. Léon, depuis qu'il avait rencontré Solange, ne quittait jamais ses souliers, même à la plage, où il portait des tongs renforcés, épaisses comme des steaks argentins. Ses pantoufles étaient munies à l'intérieur d'une pièce de liège pour les rehausser. En revanche, Solange avait édicté une règle intangible. Pas de talonnettes pendant l'amour. Il avait le droit de les remettre après. Mais qu'est-ce qui se passe alors ? Dit Solange. J'ai peut-être mis des talons aiguilles par erreur ? Mais non, Solange, pleine de tact, n'en portait jamais en présence de Léon. Elle les réservait pour ses soirées avec ses copines, où elle se juchait sur des escarpins qui donnaient le vertige à son mari. Ce soir-là, le 17 juillet, elle portait des sandales ultra plates de la minceur d'une feuille de papier, si pratique pour marcher l'été. Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive ? Je comprends pas. C'est ainsi que la tragédie arriva, sans crier gare, comme toutes les tragédies d'ailleurs, sous les auspices d'un événement anodin. La soirée fut grise pour Léon, même si personne ne fit des remarques désobligeantes, hormis la gamine de la maison insupportable et vibronnante qui tournait autour en répétant « Toi, tu as changé, tu as changé !» On s'était habitué à sa faiblesse de stature. On le charriait gentiment, la plupart des amis du couple dépassaient 1m80. On se contentait d'admirer sa stupéfiante épouse rousse, dont il n'était que le faire-valoir. Comme si on avait mis côte à côte une girafe et un zèbre. On la plaignait, on la raillait. Mais après tout, elle l'avait bien cherché. Le lendemain, il courut acheter des chaussures orthopédiques spéciales pour handicapés très mal commodes, mais qui s'offraient un ajout de 18 cm. Alors qu'il chaussait habituellement du 40, la vendeuse lui certifia que sa pointure n'excédait pas 39, voire plutôt 38. « Vous êtes sûr ? Vérifiez encore. » Elle confirma. Il en fut affligé, comme une affreuse nouvelle, et prit sa tête entre ses mains. « J'ai dit une bêtise ?» demanda la vendeuse. « Je vous ai vexé. Je suis désolée. Je vous donne du 39 si vous y tenez, mais ça sera moins confortable. Vous nagerez dans vos chaussures. Vous risquez des ampoules et de vous tordre la cheville. »
« Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu pars nuage, tu grimpes sur des branches de bois, du ciel où tu nages, et nous on tricote en bas. Viens voir l'orage. Ou va dire à la pluie, ton amie fraîche, qui trouble la lune, qui lui quand les nuages sèchent. Ici nous parfois on fuit, l'espoir et rêche. Taisez-vous, dit-elle, je suis la fière fiancée dégoûtée, je ne viendrai qu'en perles pour arroser vos doutes. À quoi te chauffes-tu, fleur de bûcher, quand tu crames du bois ému? Vas-tu coucher quand tu as brûlé tout nez? On vient te chercher. Allume les étoiles, si c'est ta vie, descends sans la grande voile. On chante d'ici, allumant un phare glacial, plus d'incendie. Taisez-vous, dit-elle, c'est pour vous que j'ai sauté dans le feu, c'est pour en sortir plus belle, pour que demain soit mieux. Creuses-tu misère en bas du bout, tu vas déterrer la terre de bout dans la boue, ta vente éclaire une clairière, jolie lumière. Tes grands bras font forêt de branches vertes, le soleil n'était pas prêt, tes grandes découvertes n'étaient qu'un monde secret. On sonne l'alerte, taisez-vous, dit-elle, je cours, je pousse, je me mélange au monde, je vous prends tant de pastels et la vie vous inonde. Brasse vers l'horizontale, vague déroule, et nous on chauffe la maison, l'amour est foule. Lave-toi si tu veux, à grandes eaux, dans la marée si c'est mieux. On fera bateau, un abri qui flotte en creux. Le bord est beau. Taisez-vous, dit-elle, je suis mariée à la grande mère. Et quand j'ai cul mon dentelle, je reviens sèche et fière.
La mort dans l'âme, Léon dut faire reprendre ses costumes qui bâillaient sur lui, raccourcir les manches et les jambes, réajuster les cols, percer 5 trous supplémentaires dans ses ceintures et resserrer l'élastique de ses caleçons qui tombaient sur ses cuisses, voire qui glissaient jusqu'au mollet. Pour le reste, malgré l'embarras, il s'habituait à vivre avec des chaussettes trop longues qui lui montaient à l'aine, des pantalons qui ondulaient autour de ses jambes, des chemises trop larges qui ressemblaient à des blouses, des t-shirts vastes comme des peignoirs de bain. Au travail, on crut qu'il masquait un début d'embonpoint. On trouva un certain chic à cette fantaisie du très ample. On vit moins la diminution que l'élargissement. On se garda de lui adresser le moindre commentaire et cette discrétion l'apaisa. Chapitre 2. Pour quelques centimètres de moins. Au début, il crut à une blague du destin. Après tout, il n'était pas désagréable de voir le monde d'un peu plus bas. Il s'endormait chaque soir, certain que le lendemain, les choses reviendraient à la normale. Mais la plaisanterie durait. Il eut un court répit. Un mercredi matin exactement, un orage terrible dans la nuit avait rafraîchi la température. Solange ne reconnut pas Léon quand il se leva. Elle le réprimanda. « Oh, arrête de faire l'imbécile et de marcher sur tes genoux, lève-toi !» Pauvre Léon. Pour toute réponse, il lui montra une fois encore ses jambes, car il était déjà vêtu et chaussé et se tenait rigide comme un piquet pour ne pas perdre un millimètre.
Des projets dingues, des ambitions. Mais une flemme aiguë, envie de quand se va de décompression. Ouais. Tout sauf la stagnation. Je parle de voyage, de nomades, mais au fond, tout ce dont je rêve, c'est une jolie maison. Monogame, convaincu. Mes yeux disent le contraire, plein d'idéal et vertus, mais donnant peu à ceux qui se crèvent par terre. Et t'as vu, je connais les codes banlieusards, c'est vice, c'est l'RK, mais j'ai pas pris un RER depuis des mois et des mois. Tiraillé entre bourgeoisie et culture populaire, entre mes potes analphabètes, les thésards, les sportifs, les glandeurs. Surtout des glandeurs, à qui je reproche d'être fou, tandis que je gagne ma vie à faire joujou. Avec des sampleurs. Et puis j'ai toujours eu envie d'être un modèle unique, original. Mais quand je regarde dans le miroir, je me trouve tellement banal. Et l'écart entre mes paroles et mes actes devient égal à la fosse des Mariannes, à la taille de l'Himalaya. Qui dit mieux? Qui dit mieux que ça? On est, on meurt. Entre les deux, on fait ce qu'on peut. À la recherche du bonheur, de beaux yeux. Qui dit mieux? Qui dit mieux que ça? On est, on meurt, entre les deux on est ce qu'on peut, à la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur, un peu comme Will Smith. Tu sors la tête de l'eau, d'autres y rajoutent du pastis. Les yeux rivés sur les aiguilles de ma montre tournant. Je me sens inutile, immobile dans un monde en mouvement. On me raconte que ce qu'on vit, pas moyen de simuler. Ma voix se perche en équilibre sur un fil brûlé. Refrain, y'a que mon reflet qui me seconde et chèque. Je devrais flinguer mon côté sombre, mais je reste qui je suis, aucun regret. On est, on meurt, entre les deux, on fait ce qu'on peut. C'est pas le but, c'est le voyage qui compte. On pense savoir ce qu'on veut, ce qui nous rend heureux, mais dans le fond, souvent on se trompe. Tant de confusion, de contradictions, pour mettre dans nos êtres, trop de paradoxes.
je voudrais toucher l'horizon. Mais coincé dans ma ville, je m'évade sur la partition.
Partir pour de bon,
c'est quitter les siens, on a
beaucoup de choses sur le feu.
Mais on verra demain une seule
vie, on en profite.
Ou on en prend soin.
Avec nos choix, on fait ce qu'on peut.
En essayant d'aller plus loin.
Qui dit mieux que ça? On est, on meurt, entre les deux, on fait ce qu'on peut. À la recherche du bonheur, de beaux yeux. Qui dit mieux que ça? On est, on meurt, entre les deux, on est ce qu'on peut. À la recherche du bonheur.
Peu de fric en perspective, bloqué en coulisses sur le théâtre des années qui nourrissent nos textes respectifs. J'parle de demain, puis j'procrastine au mic. J'ai la crédibilité d'un intermondialiste en Nike. J'aime la nuit car la nuit est mon âme sœur. Je ne vais que de l'avant lorsqu'il s'agit de l'after. L'indicible indique mes envies de prose. Ce qui s'oppose en principe souvent s'imbrique en symbiose. J'veux être poète mais soyons honnêtes. Le héros romantique est un loser de l'ère moderne mec. Allons changer le monde autour d'un gros Big Mac.
Allons planer avec Malaisie Airlines.
Ma politesse n'a d'égal que mon insolence. Et mes ivresses me permettent la clairvoyance. Et je me confesse en rime, suis-je un mec horrible? A ce titre, allez honorer et vos complexes d'Oedipe.
Qui dit mieux que ça? On est, on meurt, entre les deux on fait ce qu'on peut. À la recherche du bonheur, de beaux yeux. Qui dit mieux que ça? On est, on meurt, entre les deux on est ce qu'on peut. À la recherche du bonheur.
Le subterfuge des prothèses ne marchait plus. Il paraissait pitoyable dans son pantalon qui tire-bochonnait sous ses souliers, lesquels auraient pu contenir deux pieds comme les siens. Cette fois, quelque chose s'était passé. Solange poussa un cri navré. « Mais Léon, tu diminues? Mais qu'est-ce que t'as mangé ?» Ils prirent le jour même rendez-vous avec le médecin de famille qui les envoya vers un spécialiste des problèmes de croissance et d'endocrinologie, le professeur Daniel Doublevoux, un quinquagénaire replet, un géant débonnaire toujours en nœud papillon, et qui affectait une bonne humeur redoutable. Il examina Léon avec soin, le mesura sous la toise, le pesa, analysa ses urines et son sang. Il en conclut un affaissement prématuré de la colonne vertébrale. Vous subissez à 30 ans ce que beaucoup d'hommes éprouvent après 70-75 ans. C'est stupéfiant, hein, cette précocité. Rassurez-vous, je vais vous sortir de là. Je vous garantis une restitution d'au moins 5 à 7 cm dans l'année. Comment ? Je vais vous étayer comme un arbuste. Je vais vous mettre un tuteur dans le dos, un corset très serré pour vous empêcher de vous avachir. Je vais vous pendre par les bras, 3 heures par jour, à une barre fixe pour vous rallonger. Je vais vous étirer 2 fois par semaine grâce à une machine particulière. Vous vous sentirez beaucoup mieux après ça. Il lui prescrit en outre un traitement approprié à base de plantes, de fortifiants et d'injections d'hormones. L'assurance de Doublevoux, que ses collègues surnommaient Doublevue, en raison de sa perspicacité, effrayait Léon. Il craignait tellement de décevoir le médecin de ne pas être à la hauteur. Il s'habitua donc à travailler et à dormir avec une camisole de force constituée d'une armature d'acier qui le maintenait droit et le grattait horriblement, lui donnait des rougeurs de peau. Il devait de plus se suspendre à une poutrelle métallique semblable à un gilet et subir dans un laboratoire des élongations par un appareil monstrueux qui distendait ses jambes et ses bras dans les 4 directions différentes, lui occasionnant d'atroces douleurs aux cuisses, aux jointures et aux épaules. Il se semblait comme un hérétique soumis à l'écartèlement par un grand inquisiteur. Mais qu'avait-il commis pour endurer de tels supplices ? Il lisait des ouvrages savants sur les maladies génétiques, mais aucune pathologie ne correspondait à la sienne. Hélas, outre l'inconfort de ce traitement, Léon eut de la douleur de perdre encore la semaine suivante quelques centimètres. Le professeur Doublevoux fut fort contrarié et ne put réprimer sa colère. « Vous le faites exprès ou quoi ? Vous êtes un de ces patients dont le grand plaisir est de mettre les médecins en échec ?» Dans ce cas-là, dites-le franchement. Docteur, je ne veux pas guérir et on passe à autre chose. Mais docteur, Vous êtes seul responsable de ce qui vous arrive. Si vous souhaitez guérir, je vous guérirai. Si nous échouons, ce sera de votre faute. Solange vint au secours de son mari. Il n'y peut rien. Il a suivi votre prescription à la lettre, avec un zèle et un courage admirables. C'est vous le savant. Rendez-moi l'homme que j'ai épousé. Il n'était pas grand, mais c'était mon homme. Greffez-lui des mollets, des cuisses, des bras, c'est un ordre.
There's a big brass band in the park today. Though low notes speak what my mouth can say. Can I read you every letter, turn you every page? Can I hold you till these dark dreams fade? Hey Rose, your soul is a picture, but your body is a frame. But the frame is exquisite.
Devant les faibles et faible devant les forts, intimidé en outre par cette belle maîtresse-femme, suspendit la triple thérapie du corset, de l'allongement et de l'écartèlement et promit de tenter quelque chose. Désormais, il ne parlait plus à Léon directement, il parlait de Léon à Solange en présence de ce dernier. Je vous demande une discrétion absolue, si l'affaire s'ébruitait, votre mari pourrait devenir la proie d'une foule de charlatans. Accordez-moi une période de réflexion. Ce cas est unique dans les annales de toute la médecine. Toute la famille maintenant était avertie du problème. La mère de Solange, une grande blonde froide, toujours impeccable, eut ce commentaire acerbe. Une femme ne doit jamais se marier au-dessous de soi. Cela porte et la tire vers le bas. Qui te dit que Léon n'avait pas menti sur sa taille ? Il ne s'était pas mis à un postiche pour se grandir ? Après tout, tu ne l'avais jamais vu déshabillé avant le soir de vos noces. Solange, blessée, répliquait en évoquant le destin des hommes célèbres et petits. Jules César, Napoléon, coupant court à ses spéculations, l'amoindrissement cessa aussi soudainement qu'il avait commencé. En un mois, Léon s'était écourté de 39 cm, ce qu'il mettait à la hauteur de la poitrine de Solange, à l'épicentre de son décolleté. On le prenait désormais pour son petit frère ou, mieux encore, son grand-fils. Cela n'enlevait en rien à l'affection qu'elle lui portait, au contraire. Elle l'appelait maintenant « petit mec » pour mettre en valeur sa virilité sans cacher sa réduction. Quand il dansait le rock, par exemple, elle l'enlevait de terre, lui murmurait des folies à l'oreille, le faisait voltiger dans ses bras et l'expédiait dans les constellations. Léon, extatique, se laissait emporter les yeux clos jusqu'à l'évanouissement. Ayant gardé des réflexes de son ancien état, il évaluait mal les distances. marchait trop vite ou trop lentement, se cognait dans les meubles, ratait les marches. Quoique abrégé, il restait un homme et son épouse le lui rappelait quotidiennement. S'il souhaitait sécher le devoir conjugal, invoquait une migraine ou un embarras digestif, Solange, haute et massive silhouette, le rattrapait du bout de ses longs bras. Où qu'il aille, l'extirpait de sa cachette sous l'évier, derrière le canapé, et l'emmenait de force au lit, le déshabillait des pieds à la tête, le juchait sur elle. Si bien que quelques mois plus tard, elle se retrouva enceinte à nouveau. Malgré leur épreuve récente, les mariés se réjouirent. Léon avait acquis une petite célébrité parmi sa clientèle. Les sourds, les enroués, les bégayants, les angineux accouraient de tous les points de France et parfois de l'étranger, proches, pour lui montrer leurs narines, leurs cordes vocales ou se faire déboucher un tympan. Le personnel navigant des plus grandes compagnies le consultait régulièrement pour des problèmes d'oreilles. On le disait posséder des pouvoirs hors du commun. L'on citait le cas de patients qui avaient, en une consultation, guéri des maux des plus récalcitrants. Le fait qu'il ait réduit à la manière d'une sauce augmentait la confiance de ses aptitudes. Et certains, le croyant capable de grandir ou de rétrécir à volonté, le disaient jeteur de sorts, le qualifiaient de gnome maléfique. S'échapper, s'échapper. S'oublier dans les autres pour mieux revenir à soi. S'oublier dans les autres pour mieux revenir à soi. Presque fini pour aujourd'hui. Il nous reste un peu de musique à écouter, en espérant que demain, vos vêtements ne seront pas trop grands et vos chaussures à votre bon pied. Et surtout, prenez soin de vous. À demain!
Don't even gotta try.